Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission qui s'appelle Radicaux Libres, sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine des notes de frais. Des notes de frais de nos soi-disant représentants. Notes de frais de Carole Delga, par exemple. C'est la présidente de la région Occitanie et aussi la présidente de l'association des présidents de région. Le média en ligne Mediacité a essayé pendant 3 ans d'obtenir des documents publics, en l'occurrence les notes de frais de Carole Delga. Il les a obtenus après avoir fait intervenir le tribunal administratif. Eh oui, les élus qui ne respectent pas la loi, ça existe. Les dirigeants n'aiment pas trop qu'on vienne leur demander des comptes sur l'utilisation de l'argent public. Par contre, ils n'hésitent pas, eux, à balancer des lois, des tiers de loi, des quarts de loi et des bouts de tout et de n'importe quoi pour dire hop, 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 il faut que chaque denier public soit fléché. Il faut que nous sachions à quoi c'est dépensé. Pas pour leur note de frais. Par contre, certains sont très enclins à pinailler dès qu'il s'agit de donner 3 francs 6 sous à des pauvres. L'exemple emblématique de cette attitude, c'est Laurent Wauquiez, ce sera le fil rouge de cette émission, qui a fait traîner l'obtention de ses notes de frais jusqu'au Conseil d'État. Eh oui, à chaque étage de l'institution judiciaire, en première instance, en appel devant la plus haute juridiction, il a perdu. Mais pendant ce temps-là, ça traîne et ça se dilue et il peut amener un contre-récit. Ah, parce que Laurent Wauquiez, pour amener du contre-récit, il est là. Laurent Wauquiez, dont on sait qu'il gavait ses copains et ses relations aux frais de la princesse lors de repas à plusieurs centaines d'euros. On en reparle. On comprend qu'il ne voulait pas que ça se sache. À propos de Carole Delga, on apprend dans Mediacité que les notes de frais pour juillet 2021, décembre 2025, se monte à 145 000 euros. Donc en 4 ans et demi. Des frais de transport, avion, train et du logement, de l'hôtel. Car pour être présidente de l'association des présidents de région, il faut beaucoup bouger vers la capitale. Paris, la ville lumière. Et se loger dans la capitale. Oh non, mais pas à moindre frais, on va pas chercher le moins cher. Ben pourquoi? On est quand même présidente des présidents. Oh, ouh là là, arrête un petit peu avec ton ego. Regarde, tu ne passes plus les portes. Puis de toute façon, pourquoi le faire à moindre frais? Puisque comme disait l'autre, c'est nous qui paye. Si un jour vous voulez savoir à quoi vos élus dépensent l'argent public, vous pouvez le demander. Ouais, c'est le livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. Ça existe, le Code des relations entre le public et l'administration. Dans ce livre 3, vous êtes autorisé à demander des comptes à vos soi-disant élus. Et si au bout de 1 mois, vous n'avez pas de réponse, il faut saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Une autorité administrative qui donnera suite à vos demandes, ou pas, mais n'a pas le pouvoir de contraindre nos soi-disant représentants à justifier de l'utilisation de notre pognon. Alors la suite se passe le plus souvent devant les tribunaux. La CADA ne peut pas obliger nos soi-disant représentants à donner accès aux documents administratifs, alors la plupart du temps, ça se passe devant les tribunaux et la démocratie représentative à chaque fois un bonheur renouvelé. Parce qu'on se sent tellement représenté par des gens qui ne veulent même pas qu'on sache à quoi ils dépensent le pognon alors qu'eux le réclament à tout le monde. Si vous voulez chercher à obtenir des documents administratifs et que l'administration ne veut pas, je vous recommande donc le site cada.fr. Espace Prada, P-R-A-D-A. Ensuite, il faut renseigner le genre d'administration, le département. Vous aurez alors accès au correspondant CADA du coin. Il faut aller le voir et puis il faut lui dire hey, « j'ai le droit de demander ça ?» Mais bien sûr, bon, par contre, ça peut prendre 3 ans. On aurait pu vous parler du 9 mai. Comme chaque année, les fascistes français se regroupent pour défiler à Paris. Cette année, le tribunal administratif s'est enfin aperçu que les saluts nazis et le port de vêtements pleins de références au fascisme n'étaient pas légal. Dingue, non? Les fascistes et les nazis se comportent et s'affichent comme des fascistes et des nazis. Mais qui aurait pu prévoir? Si vous voulez en savoir plus sur les symboles que portent les FAF, on vous recommande le travail de Ricardo Parera, avec 2 R, l'un des animateurs du site Indextrême. Ouais, il y a un jeu de mots. Indextrême.fr. Et à propos du défilé des FAF du comité du 9 mai, vous pouvez retrouver Ricardo Parera sur le site auposte.media, le site de David Dufresne, hein, celui de Un pays qui se tient sage. Dans la barre de recherche, vous tapez C9M sur auposte.media et vous tomberez sur un article des plus fouillés pour comprendre la gênance extrême de l'existence de ces défilés du comité du 9 mai. Et à propos de 9 mai, eh bien, sachez qu'il y a une manifestation à 16h, place de la République, une manifestation antiraciste, antifasciste, à l'appel justement d'un collectif national qui se décline au niveau local avec l'AG antifasciste. Donc c'est à 16h, place de la République, pour dire que Bono n'est pas tout à fait d'accord pour que les fachos arrivent au pouvoir. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord pour qu'il y ait du pouvoir tout court. Ce serait bien si c'était démocratique. Tout autre chose, on aurait pu vous parler du 10 mai, qui est le nom d'un collectif manceau. Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à l'inauguration de plusieurs expositions salle Paul Courboulet au Mans, samedi 2 mai, et nous y avons rencontré Oumar Ndiaye, qui est coprésident du collectif du 10 mai. Il nous a déjà expliqué le nom du collectif, mais pas que.
En 2001, avec Christian Taubira, a fait de sorte qu'on a fait une loi donc, qui porte sur la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et du coup, depuis 2001, il y a des collectifs du 10 mai dans pas mal de grandes villes, notamment moi qui viens de Montpellier. On avait le collectif du 10 mai de Montpellier. Et quand je suis venu ici, parce que je suis enseignant à l'université, du coup, ça, j'ai eu l'idée et je l'ai exposé, sauf que tardivement, mais il n'y a que l'année dernière que ça a eu lieu. Dans le collectif, il y a 20 associations. Donc ces associations, elles ont une ligne conductrice, elles ont leur activité parallèlement, mais on partage cette idée, on partage ce dénominateur commun qui est l'abolition de l'esclavage, l'esclavage dans tous ces états, disons. Et du coup, là, il y en a même des associations qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la Caraïbe, du Sénégal, ici même, ici au Mans. Et ici en France, il y a la Ligue des droits de l'homme. Il y en a d'autres aussi, des bénévoles ou des personnes lambda qui n'appartiennent pas à des associations mais qui partagent notre idée.
Où trouve-t-on ce collectif si on veut le contacter?
Physiquement, on a notre siège à la MJC Ronceret et on a notre page Facebook qu'on appelle Collectif du 10 mai-le Mans. On est sur Instagram, on est sur WhatsApp et TikTok.
Plein de réseaux sociaux où vous pouvez donc retrouver ce collectif du 10 mai Le Mans, puisqu'il y a des collectifs du 10 mai un petit peu partout. Oumar Ndiaye vient de nous l'expliquer. Les commémorations officielles du 10 mai, donc la journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions. Oui, ses abolitions, parce que les révolutionnaires, notamment un certain René Levasseur, député de la Sarthe, qui était député à la Convention, eh bien, avait participé à une première abolition en 1794, mais un certain Napoléon Ier, dictateur en chef pendant de 1799 à 1815, avait décidé, lui, qu'il remettait ça un petit peu en cause. Faut dire qu'il avait pas mal de copains et même de la famille qui était propriétaire d'esclaves. Donc, du coup, c'était pas très très bon pour ses affaires, pour les affaires familiales, les affaires des copains. Eh oui, on a déjà des soi-disant représentants hein, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle pour nous dire bon, non, on va pas faire comme vous voulez, ce serait trop démocratique. On va plutôt faire pour les copains. Et la famille, bien sûr, les copains de classe sociale. Donc du coup, c'est pourquoi la journée du 10 mai est une journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions. Ces commémorations officielles auront lieu dimanche 10 mai à 14h, place de la République. Peut-être qu'il y aura le maire. Alors le maire ne pouvait pas être à l'inauguration le 2 mai. Pourquoi ? Il était au stade. Il avait d'ailleurs demandé à ses adjoints d'être le plus rapidement possible au stade. Ce qui fait que ceux qui sont venus faire acte de présence lors de l'inauguration du 2 mai à la salle Paul Courboulet sont partis FISA pour ne pas trop être en retard pour regarder des supports publicitaires se battre pour un ballon et essayer de le mettre au fond d'un filet. Si on revient aux commémorations officielles du 10 mai, elles auront lieu le dimanche 10 mai à 14h, place de la République. Et il y a également des ateliers conte et du théâtre visibles à la salle Paul Courboulet entre 16h et 19h, toujours le 10 mai. Pour le lundi 11 mai, ça se passera au cinéma Le Royal avec encore du théâtre et du cinéma à partir de 19h. On aurait pu vous parler également de fin du monde, hein, elle s'organise tranquillement. Ouais, des sociopathes imbus de leur pouvoir passent leur temps à décider de conflits, puis de trêves, puis de reconflits, puis de retrêves. Puis de trêve, cessez le feu qui n'en sont pas. Hein. Systématiquement dans les médias, en ce moment, on entend que malgré le cessez-le-feu, il y a eu 10 morts au sud Liban, par exemple. De fait, ce n'est pas un cessez-le-feu, puisque les seuls qui ne tirent plus, ce sont les Libanais. Et que le gouvernement censé représenter les Israéliens passe son temps à nier le fameux cessez-le-feu sur lequel il s'était engagé. Donc il y a des trêves, des conflits, puis des menaces, et puis parfois des compliments. Waouh, good guys. Et ça tourne en boucle comme ça, en gaspillant de l'énergie et des ressources matérielles, alors qu'on devrait y faire de plus en plus attention, puisque je rappelle que le dérèglement climatique nous tombe dessus régulièrement. Depuis début mai, il y a eu autant d'eau tombée du ciel, des précipitations qu'au mois d'avril. Oh, et tout va bien. Au quotidien, la compétition va bon train parce que ces histoires de fin du monde, eh bien, elles se déclinent au local. Alors, notamment en termes sportifs et même dans les sports mécaniques. Là, par exemple, les 9 et 10 mai a lieu le Grand Prix de France de moto. Une course de moto sur un circuit fermé pour bien gaspiller de l'énergie. Une course qui attire des dizaines de milliers de personnes venues de toute la France et voire même de l'étranger pour regarder les motos faire des tours et revenir à leur point de départ, mais le plus vite possible, pour être bien classé. Les médias présentent l'activité positivement, les autorités locales s'enorgueillissent de la présence de touristes sportifs et puis du rayonnement de la ville avec la course. Et pendant ce temps-là, ben, les riverains morflent à cause du bruit, l'atmosphère morfle de la pollution et de l'augmentation du CO2, et l'intelligence morfle d'accepter la compétition comme un bienfait. Ces courses devraient être interdites depuis le premier choc pétrolier, au moment où ça les a choqués, les libéraux, plutôt que de servir à vendre n'importe quoi, tant les motos comme les pilotes servent de support publicitaire comme dans tout le sport professionnel. Il existait il n'y a pas si longtemps un collectif intitulé Stop 24H, stop pour suppression de toutes les oppressions polluantes. Vous pouvez les contacter sur stop24h@riseup.net, riseup.net. Mais finalement, on a préféré vous parler d'agriculture. Encore ? Oui, encore. Depuis deux semaines, nous nous intéressons au monde agricole. Après avoir écouté un agriculteur multiplicateur de semences et une agricultrice irrigante membre du collectif O72, il apparaît clairement que le modèle majoritaire du moment est productiviste. Il base ses actions sur la quantité et ce, à n'importe quel prix. D'ailleurs, parfois, c'est au prix des qualités organoleptiques, le goût et l'odeur notamment, par la mise sous brevet de graines qui rapportent, et tant pis si ça nourrit pas si bien, par la création de réserves de substitution, les méga-bassines qui permettent de s'accaparer l'eau, eh bien, c'est aussi un des emblèmes de cette agriculture productiviste. Tant pis pour le reste du monde, hein, tant que moi j'ai de la flotte pour faire mon maïs. Tout ça crée un modèle et donc des pratiques agriculturales qui deviennent délétères pour les sol, l'eau, l'air, la qualité nutritive de notre nourriture et par ricochet tout le vivant. Eh bien, que faire, comme disait l'autre Élodie du collectif O72, qui nous en avait parlé, qui nous avait parlé des méga-bassines, etc., la semaine dernière, nous en dit plus sur des alternatives. Mais auparavant, elle se représente elle-même.
Je m'appelle Élodie, je suis agricultrice à Malicorne-sur-Sarthe. Je suis maraîchère en maraîchage biologique et je suis irrigante.
Quelles pourraient être les alternatives ? On nous parle de remettre en place des zones humides.
Oui, il faut absolument prendre soin de nos zones humides, prendre soin de nos cours d'eau aussi. C'est hyper important d'avoir des cours d'eau qui soient vraiment vivants, qui soient diversifiés. En fait, des cours d'eau, ça doit ressembler à une carte de France avec des autoroutes qui sont les gros fleuves, des nationales qui sont leurs petits affluents et des toutes petites rivières qui vont être plutôt les routes communales. Il faut vraiment le voir comme ça. Et la diversité de nos paysages, elle est précieuse. C'est quand on l'a pu qu'on se rend compte que en fait, c'est un problème d'avoir cassé les cours d'eau et cassé les zones humides.
Est-ce que on peut continuer à faire pousser les mêmes choses qu'il y a 20, 30, 40 ans ?
C'est effectivement une solution que de changer de pratique culturelle et que nous, on met ça en place beaucoup dans les milieux de la bio, dans les milieux paysans. On essaie d'adapter nos semences, c'est-à-dire de récupérer des fois nos semences d'une année sur l'autre quand elles ont souffert de la sécheresse. Elles ont leurs caractéristiques génétiques qui vont changer, elles vont mieux s'adapter sur la fois d'après, quoi. Laisser faire la nature de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne solution. Alors, voilà, je ne veux pas faire un petit tacle aux NGT ou aux autres OGM qu'on nous propose de temps en temps, mais la nature fait assez bien son boulot. Voilà, normalement, il n'y a pas besoin de mettre le nez dedans. Mais effectivement, on n'est pas obligé. Par exemple, en Sarthe, c'est quasiment 70% d'eau d'irrigation qui va partir pour le maïs. On n'est pas obligé de faire du maïs que du maïs. On peut aussi partir sur d'autres itinéraires de culture.
Également réfléchir les subventions, parce qu'il y a un certain nombre de subventions qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, mais plutôt à la production, enfin à la production productiviste.
Ouais, ça aussi c'est un axe sur lequel il y a beaucoup de travail à faire et sur lequel les paysans nous sommes assez inquiets. C'est l'axe de notamment la PAC, notamment toutes les aides qui vont encourager à aller plutôt vers de la surface, vers du productivisme, plutôt que d'aller vers des pratiques vertueuses, du bio et de la plantation de haies. En fait, c'est tout simple, mais les aides PAC à la surface, elles vont tomber au mois d'octobre, et les aides bio vont tomber au mois de mars, donc beaucoup plus tard. Donc sur la trésorerie, des fois, ça pose des problèmes. On en est encore à mettre l'accent sur le premier pied de la PAC, qui est sur les questions de surface et de productivisme. Mais j'ai rien contre le productivisme en soi, il faut effectivement bien nourrir le monde, mais on peut le faire avec d'autres pratiques. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, on n'est pas juste à s'opposer et à dire non. On a des modèles, on peut les présenter, on peut les mettre en avant, et voilà, on les trouve très enthousiasmants et on a vraiment envie de les faire connaître. Là, je parle de toute l'agriculture paysanne, je parle de l'agriculture de conservation des sols, je tanne mes collègues avec ça, mais tous ceux qui peuvent arrêter de labourer doivent arrêter de labourer. Nous, en maraîchage, on a des groupes de soutien et des groupes techniques, les uns les autres, notamment avec la participation du GAB, le groupement des agriculteurs bio. On a des groupes où on partage nos techniques pour irriguer un petit peu moins, pour mettre plus de paillage et du coup arroser un peu moins, utiliser des gouttes à gouttes plutôt que de l'aspersion. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont parfaitement simples à mettre en place.
Ah, on sent bien que l'agriculture paysanne n'a pas le même objet que l'agriculture productiviste. Quand l'agriculture paysanne considère le milieu dans son ensemble, l'eau, le sol, les organismes vivants, ça va des bactéries aux humains et leurs interconnexions. Sans les bactéries, on aurait des problèmes à digérer. L'agriculture productiviste résume le milieu à un moyen d'obtenir du rendement. Ouais, on se retrouve dans la même chose avec ce qu'on appelle la sylviculture et puis le fait de faire de la liniculture. Tiens, je plante des arbres, mais je m'en fous s'il n'y a pas de sous-bois. L'important, c'est que ça donne du bois. Alors que non, une forêt, c'est pas ça. Eh bien, dans la même dynamique, on a cette agriculture paysanne et l'agriculture productiviste. Et ça risque de ne pas s'arranger, puisque en août dernier, la loi Duplon, du nom du député ancien président FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, rendait plus facile l'installation des mégabassines et d'autres installations agricoles géantes, pour lesquelles il avait d'ailleurs un intérêt. Marqueur de cette agriculture de rendement maximum, l'agriculture productiviste. Et actuellement, nous avons dans les tuyaux une loi d'urgence pour laquelle la ministre de l'Agriculture actuelle, Annie Genevard, fut entendue par la Commission des affaires économiques mercredi 29 avril, et où elle a expliqué en long, en large et en travers que c'était vraiment trop super ce qui allait se passer. Pour en savoir plus sur le pédigré de Annie Genevard, militante du parti des Républicains, opposée au mariage pour tous qui veut expulser des étrangers plus vite et a empêché le Nutri-Score version 2024 d'être appliqué parce que ça craignait, il y avait des copains de la FNSEA qui avaient des soucis, parce qu'il y avait des trucs qu'ils produisaient qui tout à coup se retrouvaient dans des... Je vous conseille de lire l'article de Marie Astier paru en septembre 2024 sur le site reporter.net pour en savoir plus sur Annie Genevard. Encore un petit mot on va laisser la conclusion à Élodie du collectif O72.
Je vous encourage vivement à rejoindre les luttes qui sont autour de chez vous et le collectif O72 en l'occurrence, on vous accueille avec plaisir. C'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, vous êtes concernés, vos enfants sont encore plus que concernés. La biodiversité est très très concernée, le paysage, si vous voulez le garder comme vous l'avez actuellement, c'est important, rejoignez-nous, soutenez-nous.
Pour contacter le collectif, vous pouvez vous rendre à la Maison des Paysans, avenue Georges Auric, près de l'université. Mardi 5 mai à 18h30, il y avait la dernière réunion de la saison. J'en ai pas vu au mois de juin. Enfin, faut vérifier quand même. Donc, Maison des Paysans, avenue Georges Auric, près de l'université. Et par courrier électronique, vous pouvez les joindre à l'adresse suivante, collectif o72@riseup.net. Je recommence. Collectif o72@riseup.net. La lutte, comme l'eau, c'est la vie. Et pour vivre, il faut aussi manger. Manger déjà à sa faim et correctement. La qualité doit aussi être au rendez-vous. Et ça peut coûter cher. Aussi, des militants ont eu l'idée de copier le système de la sécurité sociale pour que soit créée une sécurité sociale de l'alimentation. En mars dernier, salle des Ardrières, c'est dans le quartier des Ardriers, ils sont pas foulés, à Le Mans, avait lieu une après-midi consacrée à la sécurité sociale de l'alimentation. Cet après-midi était à l'initiative de la Confédération Paysanne et du CAP 72, une association de soutien à l'agriculture paysanne. À cette occasion, nous avons tendu notre micro micro à Paul Froger, qui se présente très bien tout seul.
Moi, je m'appelle Paul Froger, je suis animateur à la Confédération Paysanne et à l'ADR d'Indre-et-Loire. Et depuis 4 ans, je développe des projets autour de la sécurité sociale de l'alimentation, donc en Touraine et notamment à Tours.
C'est quoi l'ADR ?
L'ADR, c'est l'Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural. Donc, c'est une association qui est très liée, qui a été créée par la Confédération Paysanne pour notamment aider les paysans et paysannes qui souhaitent s'installer à être accompagnés dans ces démarches. Pareil pour les personnes qui souhaitent transmettre, faire des formations pour les paysans et paysannes en activité qui souhaitent faire de l'agriculture paysanne. Et du coup, c'est cette association qui a apporté chez nous ces questions d'accessibilité à une alimentation de qualité.
En effet, en Touraine, le collectif SSA pour Sécurité sociale de l'alimentation 37 travaille à populariser l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. Alors rien de spectaculaire, hein. On n'est pas avec un pété de la REP qui organise un défilé du 14 juillet pour son dernier, le pauvre. Mais du concret, Paul Froger nous en dit plus sur ce collectif.
On a commencé par faire une journée autour de cette idée-là, avec pas mal de temps d'animation de mon côté pour appeler, essayer de, autour d'un banquet et d'une journée un peu conviviale, de pouvoir se rencontrer une première fois. Et avec l'idée de réunir 3 composantes un peu de la société. Une composante qui était donc le monde paysan et les associations nombreuses qu'il y a dans le monde paysan, que ce soit les réseaux des AMAP, la Confédération Paysanne, donc l'ADR, le GAB, les CIVAM, Impact, etc. Et après, il y avait aussi donc, tout ce qui était les centres sociaux, les habitants, habitantes de quartier. Donc on s'est beaucoup appuyé sur les réseaux des centres sociaux, mais il y avait aussi des associations à Saint-Pierre-des-Corps qui s'appelait Naya par exemple, qui n'était pas un centre social, mais qui est une association d'habitants et d'habitantes. Et après, il y avait plein d'associations soutien intéressées par l'idée, qui souhaitent défendre un autre modèle agricole et la justice environnementale et sociale. Et donc qui étaient aussi membres du collectif. Nous, c'était Greenpeace, Peuple Solidaire, Université Populaire pour la Terre. Et on s'est réunis une première fois et on s'est dit, on monte une coordination, la Coordo SSA 37, avec l'objectif de se voir 5 fois par an pour se raconter nos réalités, essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait chacun de notre côté, partager de la réflexion politique, on a arpenté des textes, essayer de se former et en fait juste se voir et connaître nos calendriers. Ça permettait de s'inviter mutuellement à des événements, on a fait des projections du film La part des autres, on a fait des petites formations ensemble. Et c'est ça qui a commencé à créer un peu de l'interconnaissance et la possibilité de faire des choses ensemble.
Se connaître pour se faire confiance et travailler ensemble. On est bien loin du monde des affaires où le carnet d'adresses sert surtout à augmenter sa puissance personnelle. Augmenter son pouvoir ne fait pas partie des piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. Plusieurs axes directeurs que nous allons interroger. Mais tout d'abord, nous avons tenté de savoir quelle était la base de la sécurité sociale de l'alimentation, comme de la sécurité sociale tout court d'ailleurs, à savoir la socialisation.
Donc l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la socialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette socialisation de l'agriculture et de l'alimentation ?
Une des bases de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de revendiquer un droit, qui est le droit à l'alimentation, qui existe dans plusieurs textes que la France a signés, et qui correspond à un accès digne, régulier, à une alimentation choisie et de qualité. Une des façons vraiment inspirantes qu'on a en France de revendiquer et de mettre en place un droit, qui était le droit à la santé, c'est le modèle de sécurité sociale. Indépendamment de notre force de travail, de nos conditions de vie, on a le droit d'avoir accès à la santé, on a le droit de se soigner, et nous on considère que de la même façon, on devrait avoir le droit à avoir accès à une base d'alimentation choisie, de qualité, qui soit non pas garanti par juste son propre travail individuel et son mérite, avec toutes les critiques qu'on peut faire à cette notion, mais plutôt par la société dans son ensemble. Et du coup, socialiser, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est non plus son travail individuel, mais le travail de tous et toutes, le travail des machines aussi, l'ensemble de la richesse produite sur lequel on va prélever une cotisation qui va permettre de sécuriser pour l'ensemble de la population, donc c'est un droit universel, un budget dédié à l'alimentation.
Un budget dédié à l'alimentation dont forcément une partie serait donnée par la société. Ouh, ça va faire ronchonner un certain nombre de personnes qui se plaignent de quoi ? De l'assistanat. Tiens, Monsieur Vauquier, on le retrouve. Celui qui se fait payer des repas à je ne sais pas combien, celui qui vit aux frais de la princesse depuis un certain temps. Mais lui, l'assistanat, ça le choque. Alors à propos de textes, la France a signé par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme tout court de 1948 qui indique dans son article 25, je cite, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Eh oui, et quand on se retrouve avec le RSA, bah, c'est pas forcément le cas. Et quand on se retrouve avec un SMIC, bah, c'est pas forcément le cas non plus. En 2010, il y a une loi numéro 874 du 27 juillet qui change le code rural de la pêche maritime avec un article L230-1 qui dit ceci. La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès dans des conditions économiquement acceptables par tous à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Ouais, en gros, là, l'idée, c'était de mettre l'accent sur l'agroécologie, l'agriculture bio, etc. Je continue. Elle vise à offrir à chacun des conditions du choix, c'est moi qui insiste, de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels pour son bien-être et sa santé. Alors, tout ça, ça passe par un plan. Ouais, le plan national pour l'alimentation. Qui est décrit juste après, le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants, je cite le premier point, la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptée. Eh bien, finalement, l'article fut abrogé en 2014 et remplacé par une partie 3 dans l'article L1 du même code rural et de la pêche maritime. Depuis, d'autres textes ont été votés pour changer encore la donne, mais globalement, les grands principes restent les mêmes sur le papier. Quantité et qualité suffisantes et choix. Choisir son alimentation, c'est pas une mince affaire. La crise inflationniste qui dure depuis 2022 nous le montre. Les médias font régulièrement le compte du surcoût des aliments vendus dans nos super et hypermarchés préférés. C'est l'occasion d'interviewer la petite vieille qui n'a plus les moyens de manger de la viande et du père de famille qui a réduit le budget fast-food. Par contre, il en est qui ont le choix. Ouais, ils ont le choix, ils choisissent. Tiens, Laurent Wauquiez, député du Parti des honnêtes gens, les Républicains, pour ne pas les nommer, en mars 2022 et en octobre 2022, il a invité par exemple Michel Houellebecq aux frais de la princesse, ce qui a coûté pour deux à chaque fois. Hein. À chaque fois, il n'était que deux. Hein. En mars 2022, ça a coûté 1200 euros. En octobre 2022, ça a coûté 900 euros. Comment peut-on dépenser 1200 euros et 900 euros dans une bouffe? Pour sa défense, celui qui veut déporter des délinquants à Saint-Pierre-et-Miquelon a indiqué, je cite, le verbatim paru dans le Nouvel Observateur, Nouvel Obs comme on dit maintenant, « Je n'étais pas informé du coût de ces repas ». Il existe donc des gens qui ne regardent pas la douloureuse quand ils tentent la carte de paiement, surtout si cette carte de paiement, c'est aux frais de la princesse. La socialisation de l'alimentation n'est pas un droit à copier les profiteurs de la démocratie représentative, mais plutôt de renforcer l'accès à cette fameuse nourriture choisie. Et même les pétés de thunes qui vivent à nos crochets en se faisant passer pour indispensables, style à la Wauquiez, y auraient droit, puisque c'est universel. Eh bien, c'est Paul Froger qui nous explique ça la prochaine fois. On va se quitter, mais avant, n'oubliez pas samedi 9 mai 2026, il y a une manifestation à 16h, une manifestation antifasciste, parce que le fascisme existe malgré ce qu'on nous fait passer dans la plupart des médias. Une manifestation antifasciste, rendez-vous à 16h, place de la République, samedi 9 mai. Et bien, si vous êtes place de la République également à 14h, il y a manifestation en soutien à la population palestinienne. Comme c'est la journée des solidarités et qu'il y a un certain nombre de barnums place de la République, c'est peut-être déplacé place des comptes d'humaines pour la manifestation pour la Palestine. Et si vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe dans notre territoire, eh bien n'hésitez pas à aller voir sarthe.demosphère.net et larnapé.info, larnapé avec deux E à la fin, .info. Bon, bah en attendant de se retrouver ici ou ailleurs, mais surtout pas sur le circuit des 24 heures, je vous dis tout simplement allez, au revoir.